Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
De la Corée du Sud à la RDC, en passant par l'Inde et la Terre Sainte, nous ferons le tour du monde dans ce magazine. Nous verrons que l'Église est sur plusieurs fronts, elle en paye parfois le prix fort. Avec ses ombres et ses lumières, elle poursuit ses activités pastorales avec une vigueur renouvelée et quelques inquiétudes en ce début d'année. Et nous commencerons par la Corée du Sud où la construction d'une base navale continue de créer des remous. Lancée en 2007 par le gouvernement sud-coréen, lui-même fortement encouragé par les États-Unis, le projet de construction d'une base navale sur une île touristique et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO suscite bien des protestations. En tête des opposants, les associations écologistes, les habitants de la région, mais aussi l'Église catholique, inquiète des conséquences géopolitiques que pourrait engendrer ce projet militaire dans un contexte de tension sino-japonaise latente. Deux jésuites ont d'ores et déjà été arrêtés pour avoir participé à certaines manifestations. L'un d'eux, le père John Lee, serait encore en prison. Le comité justice et paix de la conférence épiscopale coréenne ainsi que la Compagnie de Jésus ont déjà lancé des appels pour sa libération. Sans succès pour l'instant. Écoutez à ce sujet le père Michel Roussin, prêtre des missions étrangères de Paris. Il vit en Corée du Sud depuis 1974.
Il y a des choses qui sont contradictoires parce que cette île de Jeju-do a été déclarée île de paix. Or, on est en train de construire une base navale. Et alors, paix et base navale, ça ne va pas ensemble. Alors, ça crée effectivement une polémique assez importante. En plus que cette île est située au sud de la Corée, c'est entre le Japon et puis la Chine qui sont actuellement en conflit à cause d'un certain nombre d'îles, justement, dont elles revendiquent la propriété. Ici, on est très insatisfait parce que ça veut dire que la Corée risque, malgré elle, d'être prise dans l'engrenage éventuel de, je dirais pas jusqu'à de violence, mais enfin dans ce conflit entre la Chine et le Japon. Et cette base a été créée à la demande du gouvernement américain. Ça met beaucoup de gens très mal à l'aise, cette affaire-là.
Ce projet de base militaire suscite beaucoup de protestations, d'opposition. Plusieurs associations sont montées au créneau, manifestent publiquement, parmi elles, les associations écologistes.
Les écologistes, parce que c'est une île qui est une île touristique. Déjà, l'environnement a été pas mal abîmé à cause du tourisme. Et en plus, maintenant, eh bien, si on construit une base navale dessus, eh bien, c'est encore une dégradation supplémentaire.
L'Église catholique a également fait part de son opposition à ce projet. Pour quelles raisons ?
Pour les mêmes raisons. Si cette base a été construite là à la demande des Américains, c'est aussi parce qu'ils sont engagés dans le maintien d'un statu quo dans la région. Donc c'est aussi s'associer aux Américains avec le risque de se retrouver entre deux feux, les Chinois et puis les Japonais. Des Américains étant plutôt du côté des Japonais.
Est-ce que cette affaire n'est pas en train d'empoisonner les relations entre le pouvoir sud-coréen et l'Église catholique ?
Ah ben certainement, parce que l'Église s'est beaucoup engagée, l'évêque de Jeju-do en tête, et puis une association de prêtres. C'est sûr que ça met en difficulté un petit peu les relations entre l'Église et puis le pouvoir politique, ça c'est clair. Elle n'était déjà pas bonne parce que il y a d'autres conflits qui existaient déjà entre le gouvernement et l'Église catholique, entre autres. Par exemple, sur des projets écologiques aussi. Il y a eu le projet des quatre rivières où on a creusé le lit des rivières, fait des barrages, etc. C'est le gouvernement de Lee Myung-bak, donc qui termine son mandat, qui avait pris cette initiative. Et l'Église catholique s'est opposée aussi pour des raisons écologiques essentiellement. À ce projet. C'est toute une série de choses qui attisent le feu entre le gouvernement et puis l'Église catholique.
Comment voyez-vous l'évolution de la situation à plus ou moins court terme ?
Je vois mal parce que maintenant les travaux sont quand même pas mal engagés dans la construction de cette base. Et de toute façon, sur le plan écologique, de toute façon, les dégâts sont déjà faits. l'Église catholique va continuer à soutenir son idée de ne pas construire de base navale, de façon à ne pas se mêler d'un conflit potentiel entre la Chine et puis le Japon.
Le père Michel Roussin, interrogé par Manuela à Fiji. Un missionnaire combonien a été arrêté malmené dans le nord-est de la RDC, la République démocratique du Congo. Le père Franco Laudani, italien d'origine sicilienne, est chargé de la pastorale des Pygmées dans le diocèse de Wamba. Depuis des années, il s'efforce de venir en aide à cette minorité exclue de la société congolaise et retranchée dans la forêt équatoriale. Il s'occupe en particulier de la scolarisation des enfants. L'incident s'est produit jeudi matin, alors que le père Franco préparait avec d'autres membres de sa communauté la fête des Pygmées qui doit être célébrée le 13 janvier. Sur sa route, il a rencontré une colonne de prisonniers arrêtés par des militaires dans le cadre de la lutte contre le trafic d'ivoire. Parmi les prisonniers se trouvait un animateur des Pygmées ainsi que des femmes et des enfants. Le père Franco a demandé des explications. Ces questions ont d'abord été accueillies par des injures, puis un peu plus tard, l'arrestation et les coups, sous l'accusation d'intelligence avec les ennemis et de haute trahison. Les membres de la société civile qui l'accompagnaient ont été eux aussi roués de coups, mais ils ont pu s'enfuir. Après une intervention de la communauté catholique locale, le père Franco a été libéré sous caution, mais son passeport lui a été retiré. Au Burundi, l'Église catholique se prépare à commémorer le 10e anniversaire de la mort du nonce apostolique, Mgr Michael Courtenay, tué par balle le 29 décembre 2003, alors qu'il voyageait à bord de sa voiture. 10 ans plus tard, le mobile de cet assassinat n'a toujours pas été élucidé. La localité où l'attaque a été menée, Minago et ses environs, était à l'époque considérée comme une zone rouge. Elle était régulièrement le théâtre de tirs croisés entre l'armée régulière et les rebelles des forces nationales de Libération, Manuela Fiji.
Balles perdues ou attentats ciblés, les rebelles ont toujours démenti avoir été impliqués dans cette affaire. Le 29 décembre dernier, l'évêque de Bururi s'est adressé à la classe politique burundaise pour demander une fois encore que l'affaire soit éclaircie et que justice soit faite. Les Burundais ont le droit de connaître la vérité. Aucun représentant de l'administration civile n'était présent à la messe de commémoration. Mgr Courtenay était un homme pacifique qui exhortait les Burundais à tourner la page de la guerre fratricide qui avait ravagé leur pays à partir de 1993. Les évêques burundais souhaitent que le souvenir de sa mort incite à la réflexion sur l'importance de la paix, qui est aussi la clé du développement. Le 6 novembre dernier, le gouvernement du Burundi et le Saint-Siège ont signé un accord cadre dont le but est d'affermir les relations entre l'État et l'Église. Selon le nonce apostolique, cet accord juridique peut assurer la paix sociale et religieuse du pays, dans la mesure où la population catholique et ses pasteurs voient leurs exigences comprises et protégées par l'État.
En Haïti, l'évêque des Gonaïves a profité des fêtes de fin d'année pour fustiger la mauvaise gouvernance, un fléau endémique dans le pays, mais aussi l'attentisme et la passivité de la population. Mgr Yves-Marie Payan a dénoncé la faim et la pauvreté qui touchent trop d'Haïtiens, le chômage, la malnutrition, l'absence de débouchés qui poussent les jeunes à émigrer. Beaucoup d'Haïtiens n'ont accès ni à l'eau potable, ni à un logement décent, ni à l'éducation. Selon Mgr Payan, ils ont le droit d'aspirer à un avenir meilleur, mais il est aussi essentiel que chacun assume ses responsabilités. Il faut mettre notre peuple au travail, a-t-il lancé le 1er janvier. Il faut encourager, selon lui, l'agriculture, la production locale, les petites et moyennes entreprises. Haïti dépend trop de l'étranger et de l'assistance humanitaire. L'évêque des Gonaïves incite les autorités à avoir le courage de prendre des initiatives impopulaires s'il le faut pour protéger la population. Un groupe d'évêques d'Europe et d'Amérique du Nord entame samedi une visite de solidarité en Terre Sainte. Parmi eux, un Français, Mgr Michel Dubost, évêque d'Évry. Il s'agit d'une initiative annuelle gérée depuis 13 ans par un groupe de coordination mis en place par la Conférence des évêques d'Angleterre et du Pays de Galles sous les auspices du Saint-Siège. Cette année, la délégation séjournera à Bethléem et pas à Jérusalem comme les années précédentes. Antonino Gallofaro.
Cette visite intervient à quelques jours des élections en Israël et alors que la situation ne cesse de s'aggraver en Syrie. L'objectif est d'exprimer la communion de l'Église universelle avec les communautés chrétiennes de Terre Sainte et de renforcer les espoirs de paix dans la région. La délégation rencontrera notamment le nonce apostolique, Mgr Giuseppe Lazzarotto, et le patriarche latin de Jérusalem, Mgr Fouad Toual, qui a clairement exprimé ces jours derniers son pessimisme quant à l'évolution de la situation dans la région et son impact sur la minorité chrétienne. Au programme également des rencontres avec les diplomates, les autorités civiles et des membres de la société civile. Parmi les temps forts de ce séjour, une partie de la délégation se rendra en Jordanie pour visiter les camps de réfugiés syriens et irakiens mis en place par la Caritas. Une autre se rendra à Gaza pour y rencontrer la petite communauté chrétienne. Avant leur départ, les évêques ont confié qu'ils jugeaient la situation régionale inquiétante. Le chaos en Syrie pourrait, selon eux, avoir des conséquences très graves. La visite s'achèvera le 10 janvier par une célébration eucharistique en l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem.
Au Cambodge, les catholiques ne représentent que 1% de la population dans un pays à 96% bouddhiste. Mais la toute petite église locale entend bien, elle aussi, célébrer l'année de la foi. Un congrès sur Vatican II et l'église se tiendra à Phnom Penh du 5 au 7 janvier. Plus de 400 participants sont inscrits. La rencontre sera marquée par la présentation de la traduction cambodgienne des textes du concile et du catéchisme de l'église catholique. 500 exemplaires seront distribués. Un message vidéo du pape sera diffusé lundi. Marie Duhamel.
L'objectif est de réfléchir sur les textes du Concile pour épuiser une nouvelle énergie pour la reconstruction de l'Église au Cambodge. Le congrès se déroulera d'ailleurs sur un terrain récemment acquis par le vicariat. C'est à cet emplacement que sera construite la nouvelle cathédrale, l'ancienne ayant été détruite en 1975 par les Khmers Rouges sous le régime de terreur du maréchal Pol Pot. À l'époque, même ses fondations furent retirées, un centre de télécommunication y fut installé à sa place. Aujourd'hui, ce congrès a été voulu par le vicaire apostolique de Phnom Penh, Mgr Olivier Schmidhausler, un des plus jeunes évêques au monde qui a participé au récent synode des évêques sur la nouvelle évangélisation à Rome. Missionnaire au Cambodge depuis une quinzaine d'années, il est parti de rien. Son objectif est maintenant de permettre aux chrétiens du Cambodge de se former pour devenir responsables de leur église. Pendant les 4 ans du régime de Pol Pot, de 1975 à 1979, l'église a été persécutée, exterminée, ses biens ont été détruits et de nombreux prêtres et religieux ont été tués. Les premiers missionnaires sont revenus en 1989, après plus de 30 ans. Mgr Schmidhausler a mis en place une école de la foi. Selon lui, les changements qui touchent l'économie, la société et la culture cambodgienne imposent à l'Église un questionnement sur sa manière d'annoncer l'Évangile.
En Inde, vous le savez, 5 auteurs présumés du viol collectif d'une étudiante à New Delhi décédée des suites de cette agression ont été formellement inculpés par la police. Les suspects, âgés de 19 à 35 ans, encourent la peine de mort s'ils sont jugés coupables. L'affaire a provoqué un émoi sans précédent dans le pays. De nombreuses manifestations, souvent violentes, ont appelé à plus de protection des femmes face au viol, à une plus grande fermeté des autorités sur cette question jusque-là taboue et au réveil des consciences dans une société encore fortement patriarcale. Patriarcale, inégalitaire et peu sensible à la condition féminine. Écoutez l'analyse de Bénédicte Magnier, journaliste, spécialiste des droits sociaux et transformation sociale. Elle est également l'auteur de « Quand les femmes auront disparu, l'élimination des filles en Inde et en Asie » aux éditions La Découverte.
Le viol en Inde est aujourd'hui statistiquement le crime qui augmente le plus vite dans le pays. On sait aujourd'hui qu'il a plus que doublé entre 1990 et 2008. Et on compte aujourd'hui un viol déclaré toutes les 20 minutes dans le pays. Bon, sachant qu'on ne parle là que des cas qui sont signalés et qu'il y a énormément de femmes qui ne portent pas plainte. Cela dit, Je pense qu'il faut relativiser aussi, parce que c'est vrai, cette affaire de viol particulièrement terrible a été mise en valeur ces derniers jours par les médias, mais aucun pays dans le monde n'a su s'affranchir du viol, n'a su résoudre cette question pour les femmes. Et il ne faut pas oublier que dans, je sais pas, un pays comme les États-Unis compte plus de 130 000 affaires de viol chaque année, qu'en France, on est à peu près sur ce niveau-là, femmes et enfants compris, et qu'en France, on compte un viol toutes les 8 minutes. Donc, il ne faut pas montrer l'Inde du doigt en disant que c'est une exception. C'est un pays où le niveau des viols est élevé, c'est vrai, mais ce n'est pas le seul pays.
Qu'est-ce qui fait la différence alors dans le cas indien ?
Le viol qui a toujours existé en Inde finalement est fondamentalement lié à l'infériorité des femmes, parce qu'il y a une culture patriarcale, il y a un fond patriarcal dans la culture indienne. Ce patriarcat est visible d'ailleurs surtout dans la partie nord-ouest du pays, qui est aussi la partie, et là c'est pas une surprise, qui élimine le plus les fœtus féminins. C'est par cette élimination des fœtus féminins que se manifeste d'ailleurs l'infériorité des femmes. Le viol s'inscrit aussi dans un contexte de domination des castes supérieures sur les castes inférieures. Dans les zones rurales, il est fréquent que les agressions sexuelles soient perpétrées par des hommes de haute caste sur des femmes intouchables, parce que celles-ci finalement subissent une double infériorité, c'est-à-dire d'être à la fois femme et intouchable. Ces femmes vivent seules en quelque sorte le déshonneur lié à ce viol, parce qu'elles sont confrontées à l'impunité quasi totale des agresseurs et à une forme de silence tolérant de la société indienne, parce que c'est en quelque sorte un ordre social qui a toujours été comme ça et que la société indienne n'a pas vraiment changé en se modernisant.
On parle d'instituer la peine de mort pour les auteurs de violences envers les femmes. Est-ce que vous pensez que ce soit la solution ?
La peine de mort n'a jamais constitué une réponse à quelque crime que ce soit. En l'occurrence, le procès des violeurs de cette jeune femme qui vient de commencer, ça risque d'être un procès pour l'exemple en quelque sorte, donc on sait, il y a de fortes chances pour qu'elle soit condamnée à mort, sans qu'on sache d'ailleurs si cette peine sera exécutée, parce qu'il y a beaucoup de peines de mort en Inde qui ne sont pas exécutées. Mais ça ne constituera pas une réponse de fond, si vous voulez, au malaise qui s'est exprimé. Une vraie réponse de fond constituerait à d'abord combattre de manière efficace les stéréotypes envers les femmes qui sont là-bas enracinées dès la naissance, à faire ensuite sérieusement appliquer les lois, parce que la colère qui s'est exprimée finalement dans les rues de New Delhi, c'est une colère qui est à la fois contre les violeurs, mais aussi contre un État qui se montre inefficace à faire respecter les lois. Ça constituerait aussi à faire évoluer la police qui n'est pas au service des citoyens et qui n'est pas en Inde au service des victimes. Et puis, il serait bien aussi que l'État indien aide les ONG féminines qui luttent contre le viol et contre les violences, contre les femmes et contre le sexisme en général, et qui ont beaucoup de mal à se faire entendre, et on a l'impression qu'elles prêchent dans le désert depuis de nombreuses années, et si elles recevaient une aide maintenant, je pense que la société est prête à les écouter. Et puis d'une manière générale, l'État indien devrait poser des actes qui doivent aller vers plus d'égalité et plus de progrès social pour tous, parce que finalement ce viol révèle en quelque sorte les lignes de fracture qui traversent la société indienne, parce que les viols finalement ont toujours existé, surtout dans les zones rurales. Pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui ? C'est parce que les viols touchent maintenant la classe moyenne urbaine, et que cette classe moyenne a les moyens de se faire entendre. Elle a les moyens de s'organiser, elle a les moyens d'aller manifester, d'utiliser les réseaux sociaux, de saisir les médias, de trouver des slogans aussi qui marquent, qui sonnent juste dans la société indienne. Ça n'est pas le cas des femmes intouchables qui sont violées chaque jour dans les campagnes et qui, elles, n'arrivent pas à se faire entendre.
La journaliste Bénédicte Magnier, l'auteur, je vous le rappelle, de « Quand les femmes auront disparu, l'élimination des filles en Inde et en Asie », aux éditions La Découverte. En Allemagne, le numéro vert sur les abus commis par le clergé a été supprimé, institué en 2010 en pleine tourmente par les évêques allemands. Ce service sans précédent en Europe ne reçoit pratiquement plus d'appels depuis des mois, un véritable désert selon les mots du porte-parole de la conférence épiscopale. Au moment du démarrage, des milliers d'appels de victimes avaient été signalés et les procédures sévères mises en place pour lutter contre les abus avaient été appliquées. Les évêques allemands, je vous le rappelle, s'étaient engagés à collaborer avec la justice
dans la plus grande transparence. Un bureau national pour les plaintes avait été institué et les examens pour la sélection des séminaristes renforcés. La décision de désactiver cette ligne téléphonique a suscité des réactions de mécontentement, d'où la convocation d'une conférence de presse le 17 janvier à Trèves. En attendant, le site internet de la conférence épiscopale fournit une série de renseignements utiles, ainsi que les coordonnées des responsables de la prévention et de la lutte contre les abus dans les 27 diocèses allemands. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur internet et sur Facebook. Bonne fin de semaine à tous.